tous bienvenus à vous asseoir à la table pour participer. Nous allons commencer dans quelques minutes. Merci.
Thank you everyone.
Bien, merci à tous. Veuillez entrer. Il semble qu'il y a encore de la place. Hein. Venez vous joindre à nous. Asseyez-vous ici, autour de la table. Je pense que nous allons commencer dans quelques minutes.
Good afternoon, everybody.
Bonjour à tous. Bienvenue à cette session sur le DENSEC. Merci de votre présence. L'objectif de cette réunion est de vous présenter une petite présentation sur le DENSEC pour ceux qui n'ont jamais vraiment compris ce que c'était auparavant. Ou pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est, j'aimerais bien en savoir un petit peu plus. Bon, voilà, c'est une bonne session pour ça. C'est une session qui est destinée à vous apprendre quelque chose, mais aussi à vous amuser. Vous allez voir à quoi sert le DENSEC, à quoi sert-il pour votre organisation, etc. Vous avez une table, vous avez une feuille sur cette table qui va vous présenter un petit peu l'objectif de cette réunion avec certaines ressources si vous avez besoin d'en savoir un petit peu plus sur le DENSEC après cette réunion. Nous allons donc vous présenter les orateurs. Je suis Simon. Nous sommes heureux d'avoir quelques experts du DENSEC dans cette salle que je vais vous présenter. Donc, nous sommes de VeriSign. Merci, Matt. Nous avons Laurence, qui est aussi de VeriSign. Nous avons Matt Lawson, une autre personne qui nous aide à déployer le DENSEC, l'auteur ici, donc d'un travail fait sur le DENSEC. Nous avons des experts qui sont ici, comme Norm Rich, par exemple, qui vont nous aider. Et vous n'hésitez pas à nous arrêter s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Donc, commençons. Beaucoup d'entre vous pensent probablement que le DENSEC a été inventé dans l'ITF il y a quelques années, que c'était un standard très technique, mais en réalité, c'est un mensonge. Le DENSEC a été inventé il y a 5000 ans. Hein, en tout cas, en 5000 avant Jésus-Christ. Voilà, c'est une dame qu'on appelle Green. C'est une femme de la préhistoire hein, qui habite dans le Grand Canyon. Elle est très mignonne. Et de l'autre côté du Grand Canyon se trouve son copain qui s'appelle Og, qui habite donc dans une caverne de l'autre côté du Grand Canyon. Le problème qu'ils ont, c'est que c'est très loin. Leurs grottes sont très loin l'une de l'autre et donc ils ont du mal à communiquer. Et donc, un jour, ils se sont réunis et ils ont remarqué qu'il y avait de la fumée qui sortait de la grotte d'un de leurs voisins. Et ils ont eu une idée. On va faire des signaux de fumée hein, pour communiquer donc d'un côté à l'autre du canyon. Et voilà. Hélas, il y a un autre homme des cavernes qui est arrivé, qui s'appelle Kaminsky, qui a déménagé dans la grotte d'à côté et qui a trouvé que c'était une bonne idée, donc qui a commencé lui aussi à envoyer des signaux de fumée. Et donc la pauvre Ogwina elle était complètement perdue, elle ne savait plus à qui appartenaient les signaux de fumée. Et donc elle a décidé de descendre au fond de ce grand canyon pour voir si elle pouvait résoudre ce problème. Elle est allée voir le sage du village, hein, qui s'appelle Diffy. Et Diffy a dit qu'il avait une idée assez intelligente pour résoudre le problème. Il est parti en courant au fond de la caverne de la grotte de Hug. Et dans la grotte de Hug, il y a du sable qui est d'une drôle de couleur bleue. Et c'est le seul sable bleu qu'il y a dans cette unique grotte du Grand Canyon. Donc, il a eu une idée. Il a pris une poignée de ce sable qu'il a jeté dans le feu et la fumée est devenue bleue aussi. Et donc maintenant, Ogwina et Og peuvent parler, dialoguer tranquille puisqu'ils savent à qui appartient la fumée. Et donc Kaminsky, lui, il s'ennuie parce qu'il ne peut plus déranger dans leur conversation. Et voilà. C'est comme ça, le DENSEC. Donc, rappelez-vous une chose, le DENSEC, c'est cette fumée bleue. Mettre quelque chose dans la réponse du DNS pour savoir que la réponse que vous avez vraiment demandée est celle qui vous parvient. Donc, c'est quelque chose qui, quand on parle de cette fumée bleue, rappelez-vous de cette petite fumée bleue. Maintenant, nous allons donner la parole à Roy Ahrens, de Nominet.
So I'm going to give you an introduction to DNSSEC.
Je vais faire une introduction du DNSSEC. Je vais commencer par le concept élevé, de niveau élevé du DNS. Le DNS est un ensemble de zones. Lorsque vous voyez un nom de domaine, rappelez-vous, il y a des points plus le nom de domaine. Le point sépare les labels entre eux ou les étiquettes. Et si on regarde, par exemple, www.bigbank.com, on a donc des étiquettes de chaque côté du point et tout cela forme un arbre. Donc, on a d'abord la zone racine qui ne connaît pas du tout ce que c'est, qui ne sait pas du tout ce que c'est que bigbank.com. La zone racine ne connaît que le TLD, hein, des domaines de premier niveau, .cr, .uk, par exemple. Ensuite, on a un deuxième niveau de nom de domaine comme bigbank.com qui ne sait pas ce que c'est que .com, qui ne sait pas ce que c'est que les racines. Et comme c'est très bien séparé, tout ça donne quelque chose de très échelonnable. Il y a un autre système qui est concerné et c'est le résolveur. Le résolveur est une partie un peu plus complexe parce que c'est la machine qui fait tout le travail. Le résolveur va commencer au niveau de la zone racine et la zone racine va déléguer au résolveur au niveau suivant et etc., etc. Et cela avance comme ça, ça s'appelle la récursion et cela avance jusqu'à ce que la récursion soit répandue. La récursion est rapide, très rapide. Il y a un très grand nombre de serveurs de DNS et une très grande quantité de résolveurs de DNS et les résolveurs ont été optimisés de façon à être plus rapides en utilisant un cache. Un cache est quelque chose qui conserve l'information, qui stocke l'information. Si vous êtes allé à bigbank.com avant, vous n'avez pas besoin d'y retourner parce que pendant une petite période de temps, cette information risque d'avoir changé. Ou ne risque pas d'avoir changé. Alors, vous rappelez cette image, Ogwina, hein, qui parle avec Og, qui est le serveur, et Ogwina, le résolveur. Ogwina, le résolveur, va parler avec beaucoup d'og. Mais en général, c'est comme ça que ça marche. Donc, je vais maintenant vous présenter quelque chose que nous allons vous présenter pour vous montrer comment fonctionne le résolveur de DNS. Donc, de nouveau, je vais vous montrer la zone racine. Ensuite, nous avons MET qui va être la zone .com. Ensuite, nous avons Rashmandi qui va être le bigbank.com. Hein, et nous avons NormRichie qui va être l'utilisateur. Et donc, c'est une pièce de théâtre. Hein, et moi, je vais être l'ISP. Je vais jouer le rôle de l'ISP, pardon. Bien. Notre utilisateur est un utilisateur, s'il vous plaît, un peu plus à gauche, est un utilisateur courant, Joe User, qui veut quelque chose. Joe? Bonjour, je vais donc me présenter. Je suis l'utilisateur courant. Je vais aller à www.bigbank.com. Et je veux faire, donc, je veux consulter ma banque, hein. Je ne sais pas où se trouve cette banque. Hein. J'ai besoin d'argent, donc je vais aller voir Ruth. Ruth, je voudrais avoir une réponse. Je voudrais connaître la route pour parvenir donc à ce site de la banque. Je ne peux pas vous dire où ça se trouve, mais je peux vous dire où se trouve .com. Il s'agit d'un .1.1.1.1. Bien. Alors, j'ai besoin de l'adresse pour www.bigbank.com. Je ne connais pas cette adresse, mais je peux vous dire que bigbank.com et son serveur se trouvent à .2.2.2.2. Bien, voilà, bigbank.com. Je voudrais la réponse maintenant. Je voudrais l'adresse de www.bigbank.com. Bien, j'ai cette adresse. Cette adresse est 2.2.2.3. pour donc .bigbank.com. Bien, maintenant j'ai cette information, je vais vous donner cette information, je vais redonner cette information à notre utilisateur. Je vais la lui renvoyer. Merci monsieur Aspi. Maintenant, je vais retourner à ma banque hein, qui va être 2.2.2.2.3. Bien. Donc voilà, c'est comme ça que fonctionne le DNSSEC. Il a fonctionné comme ça pendant une trentaine d'années. L'année prochaine, ça fera 30 ans qu'il fonctionne comme ça. Et ce que vous venez de voir arrive vraiment dans la vie quotidienne. Vous rentrez, vous saisissez le nom de Noben et avant que vous voyez quoi que ce soit, c'est très très rapide, ça fonctionne comme ça. Mais c'est un système qui est vieux maintenant. Quand il a été conçu, il n'y avait pas de sécurité sur place et ces noms pouvaient être facilement usurpés, les caches pouvaient être facilement empoisonnées. Donc pourquoi ce problème? Les utilisateurs des DNS utilisaient le système UDP et non pas le TCP. Il s'agit d'un TCP, c'est un protocole d'Internet. C'est un petit peu comme quand vous téléphonez à quelqu'un. Vous lui donnez votre nom, la personne de l'autre côté donne son nom. C'est un petit peu comme si on se serrait la main. Et l'information qui va circuler, hein, vous allez la connaître. Hein. Pour l'UDP, c'est un peu différent. C'est un petit peu comme écrire une carte postale. Quand on écrit une carte postale, vous mettez une adresse, un nom, une adresse, vous envoyez la carte postale, vous vous retournez et vous ne revenez plus et vous n'aurez plus de nouvelles. Et quelqu'un va, des fois, vous renvoyer votre carte postale. Le problème, c'est qu'on ne peut pas authentifier cela seulement en regardant une adresse. On ne peut pas savoir seulement authentifier que la personne, qui est cette personne. Donc, revenons à l'histoire de l'homme des cavernes. Oguina, le résolveur peut être un peu perdu parce qu'elle ne sait pas très bien qui est Og, qui lui répond. Donc, on va vous montrer de nouveau une petite pièce de théâtre. On va demander aux acteurs de venir. Donc, nous avons la même chose, mais ici... Joe User, je dois payer donc mes factures, donc je dois retourner à ma banque. Je voudrais aller à www.bigbank.com. Merci. Je n'ai aucune information, je sais seulement où se trouve la racine. Et tout ça, c'est .0.0.0.0. Donc, je vais voir la racine. Bonjour, je voudrais l'adresse de www.bigbank.com. Je ne connais pas cette adresse, mais je peux vous donner l'adresse de .com, hein, qui est .1.1.1.1. Je voudrais avoir l'adresse de www.bigbank.com. Je ne connais pas cette adresse, mais je peux vous dire que bigbank.com, l'adresse de ce serveur, est de .2.2.2. Maintenant, je sais quelle est l'adresse du serveur de bigbank.com et je voudrais demander à bigbank.com l'adresse de www.bigbank.com. Merci, bigbank.com. Maintenant, j'ai l'adresse pour le www.bigbank.com et je n'ai aucune façon de dire si c'est vraiment et si j'ai vraiment l'adresse de la banque telle que je souhaite. Merci, monsieur AISP. Je vais faire donc ma démarche bancaire à sex.sex.sex.sex. Voilà, de nouveau, c'est comme ça que l'on peut usurper une adresse. Hein. Ça peut aller aussi vite que le DNS en lui-même, et la solution pour ce problème s'appelle le DNSSEC. Bien, maintenant, ça se complique un petit peu, donc je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Le DNSSEC utilise des signatures numériques pour assurer que l'information soit correcte et arrive au bon endroit, et du bon endroit. Le système de cryptographie fonctionne comme ça. Vous avez deux clés et ces clés sont reliées l'une avec l'autre. L'une est une clé publique, c'est la clé que vous allez donner à tout le monde, et l'autre est une clé privée. La clé privée, vous ne la donnez pas à tout le monde, vous la gardez secrète pour vous-même. Parce que tout le monde sait que si vous donnez cette clé, par exemple, bigbank.com est associé avec cette clé, et moi, ou bigbank.com peut utiliser cette clé privée pour signer quelque chose et le monde entier peut l'utiliser pour valider cela. Il peut utiliser la clé publique pour valider cela. Donc, il y a une série de clés, il y a une série de signatures et les clés publiques et les signatures sont des données, des morceaux de données, hein, comme un texte ou une adresse et ce qui est intéressant du DNS, c'est qu'on peut stocker ces clés et ces signatures dans le DNS et qu'on peut chercher ces données exactement comme on cherche des adresses ou autre chose ou des textes, hein, des différents types de données. Il y a une autre étape qui est importante et qui doit être ici indiquée. Pour le résolveur. Pour que le résolveur puisse avoir confiance dans la racine, il faut qu'il y ait une transaction. D'abord, on appelle ça donc la configuration d'une encre de confiance. Donc, cette route est bien connue. Si vous voulez avoir une validation, vous devez configurer cela et par défaut, cela va s'installer et ça va vous faire un système DNS. Mais entre com et la racine et entre bigbank.com.com, il doit y avoir une étape d'authentification. Donc, la clé de bigbank.com qu'elle utilise pour sa zone doit être authentifiée par .com. Et une fois que cela est fait, le .com va placer un enregistrement de DS qui est une simple version de la clé que la Big Bank utilise. Donc, pour vous montrer cela, je vais de nouveau vous montrer une petite pièce de théâtre. Et cette fois-ci, non, d'abord, nous allons revenir à notre diapo. Vous voyez Kaminsky. Vous voyez qu'on a le résolveur qui voit que maintenant, c'est Og, le véritable Og, qui envoie le message. Hein? Et donc, le DNSSEC nous aide à valider cela. Voilà. Donc, c'était un petit peu trop rapide. Bien. Donc, on reprend nos acteurs. Revenez sur la scène. On demande aux acteurs de revenir sur scène. OK. Bien. Alors, la première étape est toutes ces zones ont besoin d'être authentifiées, ont besoin de s'authentifier les unes les autres. Hein. Donc, COM doit s'authentifier à route, auprès de route. Et ce qui se fait ici, c'est l'enregistrement de DS qui est implémenté dans la zone racine. On peut maintenant avoir confiance dans COM. Maintenant, on a confiance dans la zone racine, on a confiance dans COM. Et c'est la même chose qui va arriver pour bigbank.com. Et COM, ils vont... Et COM, j'ai maintenant la clé qui est configurée pour la racine de .com, je peux commencer à valider. J'ai encore des factures à payer, donc je vais aller voir Monsieur ISP. Je voudrais aller voir www.bigbank.com. Je voudrais me rendre dans ce site. Hein? Donc, je retourne à la racine. Je voudrais l'adresse pour www.bigbank.com. Je m'excuse, je ne connais pas cette adresse, mais je sais qu'on a un service qui pourrait vous donner cette adresse qui est .com. Merci. Avec cette première démarche, j'ai déjà validé une première partie, donc je vais aller à .com. .com, je voudrais l'adresse de www.bigbank.com. Je ne la connais pas, mais je peux vous dire que bigbank.com et que son serveur se trouve à .2.2.2.2. Parfait. Et de nouveau ici, je peux valider cette information et c'est correct. Et maintenant, je vais aller à bigbank.com. Bigbank.com, je voudrais l'adresse de www.bigbank.com. J'ai l'adresse, mais il y a quelque chose qui cloche. J'essaye de le valider, je ne peux pas. J'essaye de la valider, mais je ne peux pas parce que la clé n'est pas correcte. Essayons de nouveau de le faire. Je voudrais avoir l'adresse pour www.bigbank.com et l'adresse est 2.2.2.2.3. Et maintenant, je peux déclarer que je suis victorieuse. J'ai l'adresse de www.bigbank.com et donc, la personne qui voulait usurper n'a pas pu le faire. Voilà l'adresse de bigbank.com. Hein. Merci, Monsieur ISP. Et maintenant, je peux faire donc mes démarches auprès de ma banque. Et merci beaucoup pour donc avoir déployé le DNSSEC. Donc, voilà, ça, c'est notre pièce de théâtre. Maintenant, je vais donner la parole à Rush Mondi. Rush. Je pense que je serai toujours dans bigbank.2.2.2.2. Bien, merci à tous. On s'est bien amusé, hein? Et j'espère que ça va vous aider à mieux comprendre de façon plus humaine quelque chose qui se fait et d'une façon que la plupart des personnes ne peuvent pas comprendre, hein, ou quelque chose qui fonctionne et dont les gens ne sont pas conscients, en tout cas. Maintenant, je vais vous parler de la façon dont on peut et voir comment on implémente le DNS5. Peu importe où est-ce qu'on est, si on est dans cette série d'activités du DNS, comme vous le savez probablement, il y a différentes parties qui forment le DNS et les activités, hein, qui ont donc les noms. Beaucoup de gens ici sont titulaires de noms ou ont un espace dans l'espace du DNS, hein, sont propriétaires de cet espace. Il y a une série d'activités concernant ces noms dans le système du DNS. Et le fait de... Donc, le DNSSEC, d'une certaine façon, concerne toutes ces activités. Donc, si, par exemple, vous êtes un CCTLD, vous travaillez dans le domaine du CCTLD, vous avez beaucoup de chances d'avoir, de dépendre beaucoup de la viabilité de ce que vous faites sur la fonction du DNS en lui-même. Et donc, vous aurez probablement... une relation de contrat très solide avec des personnes qui travaillent dans le domaine du DNS, qui connaissent le DNS. Parallèlement, si le DNS est c'est quelque chose de périphérique pour votre business, vous avez besoin du DNS de toute façon pour vos emails. Donc, et on a aussi des activités de DNSSEC dont on a besoin. Donc, je voudrais maintenant vous décrire la façon dont tout cela fonctionne. Les opérateurs de CCTLD ou tout autre type d'opérateurs importants qui travaillent dans le domaine des DNS, des grandes compagnies comme par exemple HP ou IBM, ont des équipes qui travaillent dans le domaine du DNS, des experts. Et si vous êtes une compagnie qui va faire enregistrer son nom avec beaucoup de bureaux d'enregistrement qui provoquent des services additionnels, qui vont vous proposer des serveurs avec des noms, différents noms, hein, etc. Voilà. Ici, vous voyez une illustration de l'arbre du DNS. Ici, vous voyez que c'est une structure qui ressemble à un arbre. Ici, nous avons la plus grande entreprise HP. Et ici, nous avons une autre entreprise de CNN. Et maintenant, CNN est un site Internet très actif. Et je vous donnerai d'autres exemples. Mais ce sont des business qui sont centraux et qui peuvent avoir des DNSSEC ou pas. Maintenant, si vous avez cette étape de DNS, et si vous faites les fonctions vous-même pour le DNS, vous aurez probablement cette activité du DNSSEC avec les structures, ces mêmes structures. Si vous formez cela d'une façon ou d'une autre avec des activités, vous allez le faire comme cela aussi pour le DNSSEC, en tout cas, ou une partie du DNSSEC. Donc, où sont toutes ces parties du DNSSEC? Voilà un tableau, hein, une image, un schéma. C'est quelque chose que j'ai fait il y a quelques années pour une réunion de ICANN aussi, pour essayer d'illustrer le contenu du DNS et vous montrer que c'est la partie importante. Lorsque on vous a présenté notre petite pièce de théâtre, on avait la bonne adresse IP, hein, pour qu'on donnait à l'utilisateur, hein, et on essayait de ne pas se laisser usurper cette adresse. Hein. Eh bien, on peut appeler cela le titulaire, hein, le registrant que vous voyez ici. On a les bureaux d'enregistrement qui peuvent ou ne pas être présents dans la zone, mais qui sont extrêmement communs. On a beaucoup de bureaux d'enregistrement dans la plupart des zones. Les registres, chaque TLD a un registre. On est obligé d'avoir un registre pour que cela fonctionne. Ensuite, il y a l'opération du nom de serveur. Et chaque zone doit avoir une opération d'un nom de serveur. Très souvent, cela est lié à un service qui existe, mais les gens ont tendance à penser automatiquement que dans certains cas, le bureau d'enregistrement doit être son propre opérateur de nom de service. Ce n'est pas toujours le cas. C'est souvent le cas, mais ce n'est pas obligatoirement le cas. Il faut que quelqu'un opère tout le système du nom de serveur. Ensuite, on a le résolveur de DNS et l'utilisateur final. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'acteurs donc, qui travaillent, qui fonctionnent et qui participent à ce processus. Hein. Donc, dans un sens, on monte, dans l'autre sens, on descend. Ici, voyez une autre illustration, de nouveau, avec les composantes du DNS. Ici, vous voyez www, hein, comme www.bigbang.com. Certains doivent donc fournir ces informations et les mettre sur un serveur autoritatif. Ensuite, lorsque le client pose une question par ici, l'utilisateur veut obtenir cette réponse et on a une série donc d'allées et venues et Joe va recevoir sa réponse. Si maintenant on a une entreprise plus grande, voilà une illustration. Ça a été fait pour une version antérieure de DNS.com. Et ici, vous voyez une constellation de noms de serveurs qui sont ici, qui figurent ici. Et voilà une illustration d'un outil qui a été développé pour faire une carte, un schéma hein, des réponses du DNS. Ça a été fait il y a 4 ans. Et ici, combien de requêtes il faut pour remplir une page web. Voilà, vous le voyez ici. Donc, ce n'est pas seulement une seule requête ou deux ou trois. Et, hein, si on a un grand site web comme cela, il y a énormément de demandes ou de requêtes. Et la complexité continue à augmenter. Et si vous voyez, il y a 6 mois, toujours le même site Internet. Donc, un énorme nombre de requêtes de DNS. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Cela arrive essentiellement... Hein, en un clin d'œil, hein, combien de temps ça vous prend lorsque vous allez à cnn.com hein, pour avoir une réponse? C'est très rapide. Et toutes ces requêtes donc, peuvent avoir lieu avant que la page web ou en même temps que la page web apparaît sur votre écran. Donc, la chose importante que je voulais ici et vous montrer hein, dans cette partie de la présentation, ce sont les données. Ce sont les données qui se trouvent dans le DNS. Le nom, l'adresse IP, les informations concernant cette adresse IP, c'est ça qui compte. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'on parle de zone DNS. Hein. Et lorsque l'on parle de sécurité de DNS, hein, quelles que soient les parties dont on parle, hein, quelque chose qui est important à savoir, c'est que c'est toujours les données du DNS qui sont les plus importantes. Il s'agit de DNSSEC qui a été créé pour protéger ces données DNS. Donc, comme vous le voyez, comme l'avez vu dans la pièce de théâtre, une personne peut venir essayer d'usurper cette adresse, ces données, mais ces données hein, de DNS sont protégées. Parfois, on met l'accent sur la protection de DNS à travers un système cryptographique. En fait, cela vise à protéger les données qui sont dans la zone DNS. Je vous ai montré donc toutes les parties. Hein, à gauche, vous voyez sur l'écran ce qu'on appelle le secteur d'approvisionnement. C'est le secteur dans lequel on a les données qui vont être saisies dans le DNS. Et dans l'autre partie, la partie droite, il s'agit du fonctionnement du DNS. Et ici, c'est les choses que le DNSSEC protège dans le sens propre du terme. Mais du côté gauche, il y a aussi des choses qui doivent être faites par rapport ou avec ou à travers le DNSSEC. Si vous vous rappelez, hein, on avait 2 personnes qui se serraient la main. Ces personnes qui se serraient la main, c'était donner la confiance en haut de l'arbre. Cela doit avoir lieu avant que le mécanisme de fonctionnement puisse utiliser ces données et sortir de l'arbre. Les données vont donc avoir un flux qui va être dans ce sens et le DNSSEC va... Donc, fonctionner du côté du fonctionnement de la machine, si vous voulez. En général, comme je l'ai dit, lorsque l'on trouve sa place dans cette image de l'ensemble de la structure du DNS et lorsqu'on se demande ce qu'on fait, hein, je vais vous donner une série d'exemples. a probablement la même approche, on va probablement utiliser la même approche qu'on a utilisée aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a un contractant qui va vouloir utiliser tout cela. Donc, si vous opérez un système d'opération de DNS, hein, vous aurez probablement l'intention ou la volonté d'utiliser les produits qui existent, que vous utilisez couramment, et incorporer l'utilisation du DNS, du DNSSEC. Hein. Par exemple, le système qui soutient, qui supporte le DNSSEC. Et nous avons eu une réunion avec Microsoft la semaine dernière. Microsoft fait de grands progrès. Ils ont des fenêtres de données. Ils savent ce qu'ils font. Dans cette ligne de produits, il y a beaucoup d'autres systèmes de produits open source et propriétaires qui sont disponibles. Et il y a une autre activité qui est très intéressante, en tout cas pour moi. Hein, moi, j'aime beaucoup le DNSSEC. C'est le système de signature. Si, les services de signature. Si aujourd'hui on travaille dans le secteur des opérations de DNSSEC, et pour une certaine raison, ça ne peut pas être viable, on ne peut pas faire de changement dans votre registre ou dans votre serveur de nom, dans la structure de votre serveur de nom ou dans votre entreprise. Hein. Et on peut à ce moment-là prendre les données de votre zone autoritative, les envoyer à VeriSign ou à Nominate ou à un autre qui va faire la signature des données pour vous et qui va vous renvoyer les données de façon à ce que vous ayez davantage de fichiers, un fichier plus grand en tout cas, et vous n'aurez pas besoin de faire de modifications dans votre système en lui-même, hein, au-delà de la possibilité d'avoir le flux de données qui rentrait dans votre serveur de données envoyé au serveur de signature et qui va vous le renvoyer ensuite à votre serveur de nom. Et comme je l'ai dit, ce que vous faites hein, peut être un mélange de tout cela, de tout ce que je viens de vous mentionner. Donc, si on utilise des produits d'un vendeur, et je ne mentionnerai pas de vendeur en particulier, nous avons une enquête de produits de DNSSEC. Il y a beaucoup de produits qui ne connaissent pas le DNSSEC, et ça, c'est un problème. Donc, si vous avez un de ces produits, et que vous allez voir votre vendeur et, vous lui dites « Est-ce que vous avez un DNSSEC ?» Il va vous dire « Oh, excusez-moi, je ne peux pas vous donner ce type de produit. » À ce moment-là, vous avez le choix. Vous pouvez utiliser différents produits, faire pression sur votre vendeur pour qu'il vous en parle. Hein. Ce n'est pas comme d'autres caractéristiques hein, que l'on peut aller voir, pour lesquelles on peut aller voir un vendeur qui vous dit « Oh, non, on ne fait pas ça actuellement. Hein. » Mais ce que je vous recommande, c'est de le réclamer parce que pour une série de... En tout cas, pour selon... une des choses qu'on entend concernant le DNSSEC, c'est que nos clients ne nous le demandent pas. Donc, allez voir vos vendeurs, réclamez-le, dites-leur, je veux cette fonction, parce que beaucoup le font, et beaucoup d'autres ne le font pas. Il est aussi possible que dans cet environnement, le service de signature puisse aussi être utile dans cette instance, mais c'est quelque chose qui va fonctionner moins bien que quand vous contrôlez toute votre opération. Donc, si vous êtes le propriétaire, le titulaire de d'une série de noms, hein, j'ai des registres qui ont des différents noms de marques, hein, je dois dire que je ne sais même pas quelle est la totalité des noms que je possède. Je sais que beaucoup d'autres gens ont déjà entendu des entreprises dire qu'ils ont des centaines de noms, qu'ils sont titulaires de centaines de noms. Et donc, on doit à nouveau examiner ce qu'on fait avec la gestion de ces noms, des noms que l'on a enregistrés. Et il faut réfléchir sur la façon dont on va pouvoir faire entrer ces noms dans le DNS comme signature, comme zone signée. Hein. Donc, si vous avez un bureau d'enregistrement qui vous donne un service de nom, vous allez demander à ce bureau d'enregistrement quand est-ce qu'il peut commencer à vous offrir ce service de signature ou d'opération de nom de serveur signé. Hein. Et si vous opérez, si vous faites fonctionner votre propre serveur de nom, et vous allez donc devoir offrir ce service à l'intérieur de votre entreprise. Donc, c'est une situation similaire, mais il faut considérer ce que l'on doit faire et voir quelle est donc la situation générale pour pouvoir vraiment en arriver au point où, lorsque les données sont signées, sont dans la zone, elles ont un DNSSEC et à ce moment-là, le résolveur récursif validant peut obtenir l'information qu'il a besoin pour valider de nouveau et cela pour l'utilisateur final.
Donc voilà la fin de la présentation. On voit les approches de haut niveau pour ce que vous devez faire. Et je pense que Simon va assumer maintenant le rôle de modérateur pour la séance de questions. Je pense que vous avez bien compris, mais j'ai redonné la parole à Simon. Merci, Ross. D'abord, je vais faire une question à tout le monde ici dans la salle. Est-ce que ça vous a été utile? Est-ce que vous avez appris quelque chose de nouveau? Ou alors, est-ce qu'on aurait dû mentionner des aspects qu'on n'a pas mentionnés? Oui, rapprochez-vous de la table, s'il vous plaît. On a des micros ici. Et si vous voulez parler, servez-vous des micros, s'il vous plaît, parce qu'on enregistre la session et ça va nous aider à mieux entendre en même temps. Voilà, pesez le bouton vert. Merci, je m'appelle Pedro, je suis de Costa Rica et je voudrais savoir davantage sur le DNSSEC. Est-ce que ceci est inclus sur le ITF? Est-ce que vous avez des versions préliminaires sur le document? Ou alors, est-ce que c'est une version finale ou c'est une version préliminaire? Est-ce que ça fonctionne? Etc. Merci. Je suis Roy Adams. Matt est là-bas dans la table. Avons travaillé pour la standardisation du DNSSEC. Et donc, le DNSSEC est un standard. Il s'agit d'un standard Internet. Selon l'ITF, il l'appelle un standard proposé. La plupart des standards ITF sont proposés, en fait. Mais ceci veut dire qu'il s'agit d'un produit qui est bien mis en place. Il s'agit d'une bonne pratique si vous voulez vous servir de ceci. Si vous voulez le chercher, ils sont 40, 30, 33 et 35. Vous pouvez nous parler, moi et Matt, après. Merci. Oui, voilà, on a une autre question au fond de la salle. En fait, l'authentication entre les serveurs des domaines de haut niveau et le serveur normal, comme on voit, est fait. Mais ma question est, qui authentifie le serveur de haut niveau lui-même? Est-ce que le resolver doit revenir au serveur de racine et il n'y a pas d'authentification à ce niveau? Mais après ceci, on a une authentification entre le serveur racine et le serveur pour le domaine de haut niveau. Très bien. Donc, sur le DNSSEC, on n'a pas de concept d'authentification du serveur, mais simplement l'authentification de données. Donc, en ce moment, la requête de l'utilisateur est envoyée au serveur racine. Donc, comment est-ce qu'on peut garantir que le serveur va arriver à ce serveur racine qui contient les données qui vont l'amener à l'autre couche de l'arbre? Bien, en fait, on n'a pas de garantie lorsqu'on envoie une question pour savoir qu'on va revenir au serveur indiqué. Donc, on n'a pas de garantie. Rien n'assure que votre question va être répondue par un serveur normal. Mais en fait, vous recevez l'information cryptographique. Et donc, ceci authentifie la transaction. Donc, ça n'importe pas d'où vient l'information parce qu'il s'agit ici de la correction des données. On authentifie les données, en fait, indépendamment d'où elles viennent. Et en général, vous allez recevoir ceci du serveur racine ou de la zone du site. Et en fait, on peut se rassurer qu'on a les bonnes données. Donc, c'est indépendant d'où ça vient. Merci. Alors, je vais vous demander combien parmi vous travaillent avec la mise en place du DNSSEC ou alors ont considéré la mise en place du DNSSEC pour votre organisation. Est-ce que quelqu'un se trouve dans cette situation? Bien, donc nous avons quelques personnes qui sont dessus. Et alors, où en êtes-vous par rapport à la mise en place du DNSSEC? Est-ce que vous le considérez ou vous avez déjà commencé? Oui, racontez-nous. En fait, on a commencé parce qu'on a sous-traité la plupart de nos DNS et on a un registre. Et donc, on n'a peut-être pas de DNSSEC et sur le serveur. Alors, on est en train de migrer sur un autre serveur pour pouvoir avoir le DNSSEC. En même temps, on a nos propres serveurs de noms qui travaillent avec le DNSSEC. Et donc, est-ce que c'est difficile pour vous ou c'est simple de faire cela? Vous avez les bonnes ressources? Oui, nous avons les informations dont on a besoin, donc ça fonctionne. Je pense que ce sera bon pour les clients en même temps parce qu'on fournit des services de sécurité. Et donc, on leur fournit aussi une partie de ces services en même temps. Bon, c'est très bien. Alors, pour le reste, vous en êtes où pour la mise en place des DNSSEC? Je suis Victor Ibarra du Salvador et on est en train de le considérer simplement. Je voudrais demander quelque chose que vous avez dit. Vous avez mentionné la possibilité d'envoyer, d'avoir une zone qui soit signée par une autre personne, un tiers, et le récupérer. Je voulais savoir combien de temps prend cette possibilité en termes de minutes et quelle est la sécurité que ceci garantit. Je pense que c'est une question pour Matt qui vient de VeriSign. Ceci varie selon le serveur, mais la plupart sont très rapides. Il s'agit de quelques minutes ou quelques secondes même. Et en général, ils se servent de signatures de transactions et ce type de protocole pour garantir la transaction. Et donc, ceci garantit que la communication entre vous et le serveur sont dans la même zone. Et donc, vous savez que vous recevez les informations de la zone indiquée. Donc, je voudrais signaler qu'en fait, on a beaucoup de services de signature en ce moment, plusieurs organisations. Quelques-unes sont des organisations petites. On a VeriSign aussi. Et VeriSign est un service d'authentification en même temps. Donc, ce serait bon de mettre en place ceci. Et particulièrement, si on n'a pas les ressources pour travailler avec le DNSSEC vous-même, vous pouvez chercher une organisation qui sous-traite ceci. C'est une bonne option. Et donc, plusieurs personnes voient ceci comme un pas intermédiaire parce que ça les aide à commencer à travailler avec le DNSSEC pendant qu'ils considèrent comment mettre en place ceci dans leur organisation. Est-ce qu'on a d'autres commentaires? Est-ce qu'on a d'autres personnes qui sont en train de considérer l'utilisation du DNSSEC, qui sont déjà en train de mettre en place le DNSSEC? Bonjour, je suis Louis Fourlang de .gt. Et on est en train de changer l'ingénierie de notre logiciel parce qu'on a eu le même logiciel pour 10 ans et c'était pour la plupart manuel. Et en fait, on considère l'inclusion du DNSSEC en ce moment. Mais pour l'instant, c'est juste une idée. Est-ce que vous êtes en train de penser à faire le DNSSEC vous-même ou alors de le sous-traiter? Comment est-ce que vous considérez ceci? Bon, en fait, on considère les deux options. On a des études de ceci qui viennent de l'université. On l'a vu à l'université, mais on ne sait pas si on va pouvoir le faire avec eux. Donc, on analyse d'autres options. Parfait, merci. Oui, vas-y. J'ai une suggestion pour vous, puisque vous pensez à un processus de changement d'ingénierie de logiciel, vous devriez considérer les produits, que ce soit libres ou payants, etc. Vous devriez chercher qu'ils puissent supporter le DNSSEC actuel, parce que même avec les services de signature, vous allez travailler avec les serveurs de nom qui doivent pouvoir supporter adéquatement les RFCC actuels. Donc, pour les services de signature, c'est un grand pas intermédiaire pour pouvoir commencer à travailler avec ceci si vous n'avez pas les services de signature. Donc, ils doivent pouvoir travailler avec les fonctionnalités du DNSSEC. Merci, c'est une excellente suggestion. Est-ce qu'on a quelqu'un ici qui soit préoccupé vis-à-vis du DNSSEC ou qui pense que ce n'est pas une bonne idée? On a entendu parler des gens qui le considèrent, mais est-ce qu'on a des gens qui sont qu'il ne s'agit pas d'une bonne idée ou alors qui sont préoccupés par rapport à la mise en place? D'accord, donc je considère qu'on n'a pas de préoccupation. Je vais faire une question aux membres ici du panel. Est-ce que vous devriez si vous deviez donner des tips, des conseils aux personnes qui commencent à travailler avec ceci, quels seraient les conseils que vous leur donneriez? J'ai travaillé à plusieurs étapes de la mise en place du DNSSEC et en fait, j'ai vu toutes ces étapes. Donc, si vous voulez mettre en place le DNSSEC à l'heure actuelle, ne le considérez trop. On a beaucoup de serveurs qui travaillent avec le DNSSEC, comme l'OpenDNSSEC. C'est un des outils que Mandy a mentionné. Et en fait, vous devez travailler vous-même, faire l'ingénierie de votre côté, mais il y a beaucoup d'informations sur la taille des clés, sur la signature fréquente ou non fréquente. Et donc, vous devez faire ce que font les hauts niveaux, ce que fait le serveur racine, et ça fonctionnera. Donc, servez-vous des informations les plus récentes sur la zone signée. Vous pouvez faire signer la zone racine, en fait, et tout marchera. Vous verrez. Merci. Non, je crois qu'on a beaucoup de ressources qui pourraient vous aider. Mais je vois ici que nous avons beaucoup d'informations écrites sur le DNSSEC, publiées pour savoir comment il fonctionne, comment le mettre en place. Et je pense que beaucoup de gens seront contents de vous aider à mettre en place toutes ces ressources, de vous les faciliter. L'une est l'initiative de mise en place du DNSSEC. L'autre est le DNS.org. DNS Operations Analysis and Research Center, donc le centre de recherche et analyse du DNS. Et donc, vous pouvez répondre aux questions spécifiques sur le DNSSEC que vous pourriez avoir. Merci, Matt. Rose, est-ce que tu as des suggestions? En fait, je pense que je suis d'accord avec ce que Roy dit. Et donc, je vous conseille de ne pas réinventer la roue. En fait, cherchez les informations disponibles pour et adéquates à votre situation. On a beaucoup de gens avec lesquels on a parlé ces derniers temps. Et apparemment, les gens mettent beaucoup d'énergie, consacrent du temps à réinventer quelque chose qui existe déjà. Donc, servez-vous des ressources existantes et vous verrez qu'on a beaucoup de gens qui seront contents de répondre à vos questions. Et donc, suivez les étapes de façon pas à pas. Et n'essayez pas de changer tout le système DNSSEC et de le mettre en place ensemble parce que vous voulez le remplacer. Si vous voulez remplacer le système DNS, allez-y, faites-le, mais ceci n'implique pas un changement énorme, tout simplement parce que vous allez changer le DNS. Vous pouvez le faire pas à pas et vous servir de ce que vous avez déjà. En fait, je voulais répéter ce qu'on venait de dire. Ce n'est pas un domaine dans lequel il faut innover. Il y a beaucoup de personnes qui ont déjà travaillé dessus. Des gens intelligents qui ont pensé à tout et qui ont vu les problèmes. Donc, on a beaucoup de gens qui, comme on disait, seront contents de vous aider. On a des références standards pour les DNSSEC. Il faut voir que vos systèmes puissent supporter DNSSEC et la version la plus actuelle, 5.9.9, est compatible avec presque la plupart des systèmes. Oui, vas-y, Roy. Je voulais ajouter le fait que depuis le début des jours, on a beaucoup d'informations et des tailles de réponses. Et ceci n'ajoute pas la sécurité, en fait. En fait, ça ajoute la sécurité et on n'a pas de problème avec le DNSSEC. C'est ça que je voulais dire. On a ComSign, NetAssign, Duke AnySign. On devrait le faire. On a toutes les raisons pour le faire et aucune pour ne pas le faire. Merci. D'accord, merci Roy. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions que vous voulez qu'on réponde ou vous sentez que vous avez toujours des doutes? Oui, allez-y. Oui, merci. Je ne me suis pas présentée. Je suis du Costa Rica. Je voudrais savoir comment le DNSSEC fait la signature des communications. Lorsqu'une clé a été usurpée, comment est-ce qu'il fonctionne avec le système DNSSEC? Comment est-ce qu'il agit par rapport à ça? Bon, le DNSSEC est différent de TLS ou les systèmes de certification. Donc, le DNSSEC n'a pas de système de vérification plus que le temps. Par exemple, pour les registres signés, vous avez une signature qui a une marque de temps, de l'heure. Et alors, l'idée est de maintenir les délais aussi courts que possible. Donc, le délai sera aussi court que possible pour vous assurer que ça ne vous prendra pas trop de temps. Donc, SCLT aura expiré si ça prend beaucoup de temps. Donc, ça prend maximum 2 jours. Donc, si vous avez un problème avec la clé ou vous ne pouvez pas la récupérer, donc, par rapport à la mise en place, ceci sera propagé dans votre DNS. Donc, ce n'est pas que vous allez le récupérer. Très bien. Donc, si on n'a plus de questions, on a une journée entière d'informations sur le DNSSEC. Ce sera mercredi prochain. Je pense que c'est à partir de 8h30. Oui, c'est mercredi à 8h30 dans la salle La Paz C. Donc, c'est juste en haut. Et on va avoir des mises à jour régionales. On a beaucoup de gens qui sont en train de mettre en place le DNSSEC. On a des exemples donc vrais de partout dans le monde et beaucoup d'informations utiles. Donc, je vous invite à venir et on aura un repas, un déjeuner à la fin. Donc, peut-être que ceci va vous inviter, vous attirer un peu plus. Merci. Donc, on vous attendra mercredi. On aura des opportunités à continuer à discuter ceci, le DNSSEC. Je veux remercier à mes collègues d'avoir organisé cette session d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous à la fin de la session. Si vous avez toujours des questions, on sera ici. Venez nous chercher. Donc, merci beaucoup d'être venus et au revoir.